On avait déjà eu le plaisir de recevoir Hélène Bonneau ici même lors de la sortie de son premier livre, L'inconscient de l'enfant. Hélène Bonneau donc, est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et ex-AE, analyste de l'école. Nous avions eu aussi le plaisir d'entendre son témoignage. C'était pas ici, mais c'était aux Sociétés Savantes. Donc, ça fait déjà plusieurs années maintenant. Je ne sais plus quand est-ce que c'est terminé votre...
En 2013.
En 2013, voilà. Donc, c'est à deux titres que nous lui avons proposé de revenir aujourd'hui. D'une part, dans le cadre du séminaire de l'antenne clinique « L'enfant et la psychanalyse », où depuis l'année dernière, nous explorons le thème de la prochaine journée de l'Institut de l'Enfant, dont le titre est « Après l'enfance », donc qui aura lieu le samedi 18 mars à Issy-les-Moulineaux. Et d'autre part, dans le cadre de la bibliothèque de l'ACF Normandie, à propos de son livre « Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut ». Voilà, je vous laisse la parole.
Donc aujourd'hui, enfin ce soir plus exactement, je vais parler de l'adolescence, puisque c'est le thème, si j'ai bien compris, qui vous intéresse. Alors évidemment, ça m'a demandé un travail supplémentaire, puisque dans mon livre, je n'ai pas abordé particulièrement la voie, de l'âge, pour parler de clinique, mais plutôt du symptôme. Mais il est vrai que j'ai pas énormément de cas d'adolescents, quelques-uns, mais pas énormément. Enfin bon, ça fait rien. Donc ça m'a mise au travail, ce qui est toujours intéressant. Donc voilà, je vous apprendrai rien. Je commence comme il le faut et comme on le fait partout. Que l'adolescence se caractérise par un bouleversement hormonal qui se répercute dans le corps et sur le corps. Celui-ci change de morphologie sous l'effet des hormones sexuelles, mais il est aussi l'objet de pulsions jusque-là inconnues du sujet. Lorsque la rencontre avec ces pulsions sexuelles s'avère insupportable, le corps propre peut devenir l'objet d'un rejet de cette pulsion sexuelle envahissante qui contamine l'image de soi. Avoir un corps sexué et sexuellement éprouvé peut parfois provoquer le retournement de la pulsion contre le sujet. Je me suis plus intéressée à la question de... En fait, je ne sais pas pourquoi je vous avais envoyé ce titre. Dans ma tête, c'était le titre que j'ai de la conférence. Pour moi, c'était « Maltraiter son corps à l'adolescence ».
Ah bon ?
Mais enfin, bon, c'est pas grave si j'ai oublié le premier. Donc, le retournement de la pulsion contre le sujet lui-même. Alors, de quelle pulsion s'agit-il ? Toutes les pulsions peuvent s'engager dans cette voie, chacune étant porteuse de vie ou de mort, de plaisir ou de son au-delà. Par exemple, la pulsion orale se déchaîne à l'adolescence quand le corps fait horreur, que ce soit dans l'anorexie où le sujet annulera toute trace de sexualité dans son corps, ou dans la boulimie où la pulsion orale endommage l'image du corps, c'est à l'envers, lui infligeant ainsi de ne pas être désirable. Si l'anorexique arrive à rendre son corps exempt de toute marque de sexualité en le réduisant au rien qui jugule son refus, la boulimique, elle, fait de son corps un repoussoir, sacrifiant son image à la jouissance de ses excès. Tados dans l'anorexie, tas de graisse dans la boulimie. C'est très méchant, cette formule. Dans ces deux occurrences, le corps tout entier est visé du fait du changement de son image. Il s'agit moins de maltraiter son corps que d'en refuser l'image, celle-ci étant devenue insupportable dans le cas de l'anorexie et dans la boulimie, souvent éprouvée comme monstrueuse et devenant de ce fait un objet de rejet. Le corps subit les conséquences de la privation de nourriture ou de son excès, et cela se voit. Il y a une dimension de vie ou de mort qui se répercute sur l'image du corps. Ça, c'est le premier point. Celle-ci est manifestement une forme de refus de la nouvelle image dans l'anorexie. On parle de refus de la féminité, mais c'est une hypothèse. Mais il s'agit bien souvent d'un refus de perdre l'image qu'on avait de soi enfant. C'est ma première hypothèse. Et cette image qu'on ne veut pas perdre, comme le dit Lacan dans sa conférence sur le symptôme, fait poids. C'est un poids du corps d'où s'aliène l'image de soi comme corps parlant, puisque cette image est aussi, dit Lacan, celle d'où s'enracine la pensée. Dès lors, chacun voit son monde à la lorgnette de son image propre, c'est ce que dit Lacan. C'est son « nous-moi-t », dit-il, et à chacun le sien, puisque chacun n'a qu'une image, il a sa propre image de soi. On conçoit dès lors que les paroles qui ont marqué un sujet, notamment celles concernant son image du corps, puissent avoir induit le refus de grandir et de devenir femme lorsqu'on parle d'anorexie. C'est par exemple dans mon livre le cas de Roselyne, quand sa mère lui dit « tu es grosse » et que la fille décide alors de ne plus rien manger. Est-ce d'avoir été trop nourrie, sa mère confondant la nourriture et l'amour dont il s'agit ici, ou plutôt de l'impact du signifiant « grosse » alors que tout a été dénié quant au corps dont les images des camps de concentration indiquent le poids de réel. Certes, l'anorexie, dans son cas, est un choix décidé à incarner cette image insupportable qu'elle montre alors à ses parents, leur indiquant que si elle ne sait pas, si rien ne s'est dit, son corps, lui, en est l'indice. C'est sa façon à elle de parler avec son corps, expression que Lacan nous donne pour articuler le savoir et le corps, pour indiquer que le corps ne parle pas, mais qu'on parle avec son corps. Roselyne parle avec son corps. Son anorexie témoigne de son refus de taire l'histoire familiale, et de ce fait, son corps est un symptôme qui peut se lire comme la marque de l'oubli qu'elle ne veut pas, elle, passer sous silence. Quant à la boulimique, elle aussi a perdu l'image enfantine d'elle-même et elle ne peut l'assumer. Elle fait alors de son corps le lieu où situer ce conflit. Entre rondeur de l'enfance et féminité évidente, lorsque les formes en sont voyantes, puis noyées du fait du surpoids. Le silence est alors au rendez-vous, car le corps de la boulimique fait monstration du trop qui aliène le sujet. C'est le trop de la pulsion orale, trace dans le corps de cette jouissance folle qui détruit l'image de soi et revendique qu'il n'y a pas de rapport entre le corps qu'on montre et ce que le sujet dit avec son corps. Car que dit-il, si ce n'est qu'il mange trop? Ce qu'il dit, il ne le sait pas. Le sujet ne sait pas ce qu'il dit, certes, mais ce qu'il ne dit pas, il l'avale. Et s'il parle avec son corps, c'est de ça. Des paroles avalées, des paroles tues, des paroles du dégoût, qui est une forme de jouissance, un indice du réel du corps féminin comme ravalé à ses formes obscènes. C'est aussi un refus de la féminité en tant qu'idéal, en tant qu'image idéale. La boulimique s'obsède de son corps comme objet de rejet par elle-même et d'une jouissance de ce rejet lui-même. Dans mon livre, l'obsession du corps marque à quel point l'image est prégnante pour se faire exister dans l'autre. Quand cet autre, ce grand autre, n'admet pas votre corps comme image, le symptôme devient la seule façon de supposer qu'en effet, cette image ne correspond pas à celle que l'autre veut, en général l'autre parental, l'autre maternel. Et le conflit s'engage entre l'idéal du moi et le moi du sujet. C'est le cas de Jeanne, grandie trop vite, à qui on a volé son enfance. Trop jeune, elle s'identifie à la femme en allant chercher le phallus chez un homme et en trouvant dans sa famille, dans la famille du garçon, l'appui qu'elle n'avait pas trouvé chez ses parents, trop pris eux-mêmes par leur séparation. Ses parents se sont séparés, elle avait 12 ans, quelque chose comme ça. Sa boulimie vient faire trace dans son corps de ce couple parental qui s'est déchiré et qui présentifie l'énigme de son être au monde. Car bien sûr, tout sujet s'interroge sur ce qu'il a été dans le désir de l'autre. Lacan le dit aussi dans la conférence sur le symptôme. Pourquoi le corps peut-il être l'objet d'un tel rejet ? Je me suis demandé si on devait parler de maltraitance en ce qui concerne cette pathologie, qui concerne les pathologies où justement l'objet, le corps est l'objet d'un tel rejet. Ce syntagme est-il adéquat ou faut-il lui préférer celui de violence contre son corps propre, de masochisme ? Ou d'agressivité contre soi-même. Lacan, en introduisant le terme de substance jouissante, permet une lecture éclairant le rapport entre le signifiant et le corps. Dans le séminaire encore, il nous dit que le corps, cela se jouit. Il ajoute qu'il ne se jouit qu'à condition de le corporiser de façon signifiante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça permet de saisir l'impact du signifiant sur le corps. Il faut qu'il y ait du signifiant pour que le corps se jouisse, pour qu'il y ait une jouissance du corps. Jacques Alain Miller prend comme exemple, dans son cours « Choses de finesse », il prend comme exemple la scène de la pour expliquer ce que c'est que le terme de Lacan corporiser le signifiant de façon signifiante. Il prend l'exemple de la scène de la flagellation dans le texte de Freud Un enfant est battu. Tout le monde a ça en tête. Pour nous indiquer, dit-il, la matrice de l'incidence de l'autre sur le corps. Il le marque comme chair à jouir. Chair, c'est H-A-I-R. Si on réfléchit et reprend cette scène de la flagellation où l'autre agit sur le corps de l'enfant pour le frapper, mais que là, on essaie de remplacer, enfin voilà, c'est l'opération que j'ai essayé de faire, quand c'est soi-même qui se flagelle. Qu'est-ce que c'est quand on s'auto-flagelle, qu'est-ce qui se passe ? Et vous, c'est plus l'autre qui vous flagelle, mais c'est soi-même qui se flagelle. Qu'est-ce qui se passe ? Quand le sujet, donc, est l'auteur de cet acte. On peut alors apercevoir que la pulsion, dans ce cas, vise aussi le corps propre comme chair à jouir. Où situer l'autre dans cette scène de l'auto-flagellation ? Est-il présent dans le fantasme ? Y a-t-il un autre, finalement, dans le fantasme, quand je me flagelle moi-même ? C'est une question. Et si c'est le cas, On peut envisager que la pulsion fonctionne comme un boomerang et atteint le corps comme s'il était frappé par l'autre. Le corps se jouit veut dire, dans ce cas, que le passage par l'autre a fait retour sur le corps propre. L'autre est activé comme agent provocateur. Il fait corps avec le sujet qui vise alors son corps comme s'il était l'objet maltraité par l'autre. Cet autre peut en effet être un des noms du surmoi, cette force tyrannique qui opère contre soi, parce que justement, ce qui est dans le viseur, c'est soi-même comme objet petit a. Alors, agressivité ou violence. Cependant, Lacan, avant d'en arriver au tournant que constitue son dernier enseignement, donc le corps se jouit, c'est quand même la fin de son enseignement, c'est à la fin de son enseignement qu'il donne cette phrase, il écrit cette phrase. Je suis remontée un peu avant. Il fait une différence qui m'a paru intéressante entre l'agressivité et la violence, et cette différence permet de toucher en quoi ces deux modes ne relèvent pas du même registre. Voici ce qu'il nous dit. Ce qui peut se produire dans une relation interhumaine, c'est la violence ou la parole. Si la violence se distingue dans son essence de la parole, la question peut se poser de savoir dans quelle mesure la violence comme telle, pour la distinguer de l'usage que nous faisons du terme d'agressivité, peut être refoulée, puisque nous avons posé comme principe que ne saurait être en principe refoulé que ce qui se révèle avoir accédé à la structure de la parole, c'est-à-dire à une articulation signifiante. Dans le paragraphe qui suit, Lacan différencie en effet l'agressivité de la violence. Il indique que l'agressivité est ordonnée, qu'elle est prise dans le symbolique et elle peut donc être déchiffrée, interprétée, analysée. La violence, en revanche, relèverait de quelque chose qui ne peut être symbolisé et qui s'oppose à la parole en tant qu'elle ne peut accéder à l'ordre symbolique. La violence est donc le résultat de ce qui n'a pas pu être refoulé. Elle n'entre pas dans le circuit complexe de la parole et du langage. Elle est purement pulsionnelle, ou pas tout à fait. Elle est purement pulsionnelle, et nous dirions, avec le Lacan du dernier enseignement, qu'elle est réelle. Ainsi, la violence contre soi-même, si on prend cette définition, relève bien de ce qui ne passe pas par l'autre du langage, mais vise le corps comme objet réel. Celui-ci n'a pas de sens. Il est l'objet contre quoi le sujet peut obtenir une jouissance immédiate en le maltraitant. Dès lors, ce signifiant de maltraitance fait écran à ce que Lacan définit comme violence. Dans certaines formes de mutilation, les sujets, on le sait, récupèrent un certain apaisement une fois le corps atteint dans des actions de coupure, de brûlure, voire de déchirement. Il faut introduire dans le corps une douleur vive de façon à l'atteindre comme objet réel. Une fois éprouvé dans sa dimension de corps douloureux, il prend une consistance qui, d'une certaine façon, permet une symbolisation. La violence contre soi est donc un des noms de cette irruption du réel dans le corps, coupé de l'autre. La douleur est alors un des ressorts permettant de nouer symbolique et réel dans la dimension du corps parlant. C'est un des moyens pour faire du corps des jeunes adolescents qui se mutilent l'enjeu de la rencontre avec l'analyste. Le corps n'est pas maltraité, mais il est touché par la douleur, devenant alors un objet qui s'éprouve. À partir de là, il entre dans une dimension d'appartenance et peut être envisagé comme un objet dont il faut prendre soin. Traiter la mutilation comme une faute ou comme une agressivité dirigée contre soi-même ne fait pas réponse au sujet. Il s'agit au contraire de considérer l'automutilation comme une solution pour nouer le corps à la parole, la douleur en étant le médium. Bon, ça c'est en même temps, ça va ?
Ah oui, non, c'est passionnant.
Mais je m'arrête là. Après, je vous parle de deux romans que j'ai lus. Cet été.
Est-ce qu'on peut discuter un petit peu de... Vous voulez terminer ? Je ne sais pas comment...
On va terminer parce que les deux romans sont exemplifient un petit peu. Donc, ces deux romans, en fait, qui introduisent une réflexion donc, sur l'adolescence d'aujourd'hui. Et je les ai choisis, en fait, pour opposer finalement deux siècles différents. Le premier roman, beaucoup le connaissent au moins de nom, c'est Le Diable au corps de Raymond Radiguet. À une époque où c'était l'époque disciplinaire, où le nom du père était parfaitement en place, il y avait le bien, le mal, les codes sociaux, enfin voilà, tout était bien à sa place. Et le deuxième est un roman de notre époque, d'un jeune homme anglais, de 17 ans aussi, qui s'appelle Ben... je vais vous le dire après. Donc Raymond Radiguet, c'est un roman formidable qui raconte donc son histoire propre, c'est son histoire. Il a 17 ans quand il écrit ce livre, et c'est la rencontre de l'amour, du désir et de l'amour de ce jeune garçon avec une jeune femme qui va se marier avec un garçon en partance pour la guerre. Donc en fait, c'est un roman sur l'amour et la guerre. Leur amour réalise donc une situation triangulaire où le jeune amant prend d'une certaine façon la place de l'homme qu'elle a épousé d'ailleurs, cette jeune femme qu'elle a épousée, et qui lui va combattre. Et donc ce jeune garçon, finalement, il prend la place de celui qui ne peut jouir de sa femme, puisqu'il part à la guerre, parce qu'il est parti à la guerre. Et à l'époque, le livre avait fait scandale, parce que l'auteur, lui-même très jeune, piétinait l'image du soldat. Et se dénonçait alors le caractère antimilitariste de son livre, ainsi que l'idéalisation de l'adultère, transgression pour le moins choquante, entre une jeune femme mariée et un jeune homme d'à peine 17 ans. Donc vraiment, on a là tous les ingrédients de la transgression. Et donc ce livre, il est sorti en 1923. La guerre de 14 n'était pas, donc pas encore très loin. On a donné le nom de bébé cadome de la littérature à Raymond Radiguet, qui est devenu un auteur culte parce qu'il est mort à 20 ans. Il y a une très belle, si vous allez sur Internet, vous la verrez, il y a une très belle vidéo de Cocteau qui parle de lui et qui considérait Radiguet comme son fils, comme un fils spirituel, et qui nous explique qu'il est mort de la typhoïde, mais qu'en réalité, sa maladie a littéralement pris feu dans son corps en raison de son alcoolisation importante. Donc ce Raymond Radiguet était un grand buveur, un grand alcoolique déjà à 17 ans. Et apparemment, ça a mis le feu à son corps. Je trouvais ça intéressant aussi. Donc,
ça survient un peu après l'aventure de 17 ans.
Oui, il meurt après. Et surtout après avoir écrit son, ce livre, qui est d'une formidable à lire.
Il l'a repris un peu sous le personnage de Bernard dans les folies d'ailleurs.
Mmh. Donc ce livre est écrit dans un style remarquable, une langue d'une beauté qui touche. Ce qui m'a intéressée, c'est évidemment la rencontre de l'amour, du désir, de la jouissance du corps de l'autre et la place vitale que cette relation prend dans l'esprit du jeune homme. Il est capté par l'image du corps de la femme aimée. Il est aussi capté par ce qui se passe dans son propre corps. Tout tourne autour de cette relation amoureuse, de son côté interdit, que les deux amants bravent, chacun, parce que leur amour clandestin anime leur désir. À cette époque, le nom du père est en place et le roman se déroule sous le regard de l'autre social qui juge et condamne l'adultère, la faute et aussi la liberté de dire, puisque on l'a beaucoup. Il y a le bien et le mal, il y a l'ordre symbolique avec le mariage et la filiation. Et donc, même si ce livre est celui d'un jeune homme qui voulait scandaliser son époque, lui-même se présente comme un original, portant des cheveux longs avec des favoris, etc. On sait que, quoi qu'il en soit de son amour, la morale sera plus forte que cet amour et l'ordre sera le vainqueur de l'affaire. On le sait dès le départ, c'est écrit comme ça. La présence de l'autre de la loi s'écrit dans le roman sous le principe du père et des bonnes mœurs, sous le sceau de l'honneur, de l'amour de la patrie et de la famille. Ça revient en ce moment d'ailleurs, tout ça. On mesure alors l'écart qui sépare cet écrit d'un autre roman paru au printemps dernier. Celui-là, vous ne le connaissez pas, c'est un premier roman également, c'est pour ça que ça m'a intéressé, celui de Ben Brooks, La nuit, nous grandissons, ça s'appelle comme ça, joli titre qui dit bien qu'en effet la nuit, c'est là que ça se passe pour lui. Le héros, Jasper Wolf, est aussi l'auteur du livre. Lui aussi, il a 17 ans. Comme Radiguet, qui livre le style de vie et de pensée, ça livre le style de vie et de pensée d'un garçon de la classe moyenne anglaise, cherchant à tromper l'ennui par une escalade dans les excès. L'écriture est particulièrement intéressante. Son style est sans concession, vif, précipité, concis, donnant au roman une vivacité rare. Les dialogues parviennent à nous plonger dans le délire de ces adolescents, en mal de repère, s'explosant dans des soirées où il s'agit de vivre des expériences sexuelles à tout prix, sans penser aux conséquences. La crudité du langage sur le sexe est tellement omniprésente qu'en effet, on est aux prises avec le sentiment que nous sommes bien au cœur du monde adolescent actuel, nourri de films porno, de sexe, de drogue, tous ces excès qui finalement les ferment aux autres et les maintiennent dans un univers glauque et solitaire, sans idéal, sans le goût de l'effort et le désir de réussir, vivant sur un mode immédiat, sans projet et pourtant pas sans angoisse. Celle-ci, lorsqu'elle se pointe, se traite, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce livre, l'angoisse se traite avec des moments de couette partie, à regarder des séries et avec des moments de tea partie où on se réchauffe à parler. Bon, lui, il a sa grande amie avec qui il est toujours collé. Et c'est avec elle qu'ils se... Tous les deux, ils se soutiennent l'un l'autre. C'est son ami ensemble. Donc je voulais surtout insister sur la différence de ces deux mondes entre Radiguet et Brooks. L'un pris dans la société où le nom du père établit des repères solides que le jeune cherche à franchir avec l'adultère et la désinvolture de son expérience. Dans le deuxième roman, tout est déjà délité, c'est ça qui est très frappant. Brooks rêve de mettre en prison son beau-père. Et si quelque chose le tient, c'est le mode obsessionnel de sa mère, qui est un peu issu probablement en Angleterre, marqué par les comportementalistes. Elle fait des listes. fait des listes, il faut toujours faire des listes sur le frigo, tout ça. Et donc, et d'une certaine façon, je serai la première à critiquer les comportementalistes, mais là, pour lui, ça a un minimum d'effet il faut que lui aussi, il faut qu'il fasse ses listes, parce que la mère l'exige. C'est la seule chose qu'elle demande, d'ailleurs, qu'il fasse des listes. Le reste, elle s'en fiche. Elle s'en fiche complètement de ce qu'il fait dans la journée. Mais à partir du moment où il a fait ses listes et où elle voit bien qu'il doit se réveiller à 8 heures, prendre sa douche, prendre son petit déjeuner et aller en cours et revenir à telle heure et faire ses devoirs, etc., ça la rassure. Il faut qu'il fasse sa liste. Voilà. Donc, elle aussi, elle fait des listes et donc elle l'oblige à en faire autant. Et donc, faire des listes, ce symptôme maternel, l'oblige à faire semblant d'accrocher son emploi du temps et à rendre compte de ce qu'il fait, même s'il ment, cela opère à minima un ancrage dans le temps. Parce que sinon, la défense, les soirées, coucher, boire sont au premier plan. Cependant, Ben Brooks a une amie, donc c'est celle-là, véritable double de lui-même au féminin, avec laquelle il partage tout. Elle est sa confidente, il est son ami protecteur. Ils se soutiennent. Un jour, il découvre qu'elle se fait des marques sur le corps. Elle ne veut pas en parler. Il va donc voir sur Internet « scarification » et lit qu'il s'agit d'un symptôme qui indique la fragilité de la personne qui, par son acte, appellerait à l'aide. Il interprète alors que sa copine fait ça parce qu'elle demande à l'aide. Il suit ce qu'on lui dit, quoi. Il a bien compris le message. Et il comprend donc que si elle se scarifie, c'est parce qu'elle va mal. Et c'est très touchant de voir comment il va lui proposer d'être là, où qu'il soit, de venir dès qu'elle l'appelle, pour être là quand elle ne va pas bien et l'empêcher de se scarifier. Il veut se faire l'objet qui répondra à son angoisse, à elle, intégrant l'idée que l'acte de se scarifier répond à une urgence subjective, un moment d'angoisse pure où la jeune fille s'en prend à son corps parce qu'elle fait l'expérience de sa solitude absolue. Il est là, évidemment, pour la sauver, lui proposant sa présence, du vin, et des séries sous la couette. Dans son texte en direction de l'adolescence, Jacques-Alain Miller parle de l'immixtion de l'adulte dans l'enfant. Nous en avons là un bel exemple. Gide aussi éprouvait le même élan de protection envers sa cousine. Ce jeune garçon comprend bien que pour elle, quelque chose peut se précipiter vers le pire et que les marques du corps sont des moyens pour éviter le passage à l'acte suicidaire. Il sera d'ailleurs là lorsque la jeune fille tente plus ou moins de se suicider, mais son symptôme à elle, c'est de ne pas savoir. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, ni qui elle est. Elle est entre deux eaux, et ayant perdu son petit ami, il a laissé tomber, elle se sent totalement déboussolée. Ce livre donc est remarquable pour décrire cette période où les moments de vie normales ne sont que des moments suspendus où rien ne vient vraiment faire sens, où tout peut arriver et tout peut s'arrêter. Ce sont des sujets perdus. Ils doivent faire avec leurs parents déjantés, chacun vivant sa folie singulière. Les parents, en fait, n'incarnent ni autorité et encore moins un modèle de vie. Ils sont trop prévisibles, trop prisonniers de leurs propres symptômes. Ils sont eux aussi très paumés, pris dans leurs histoires d'amour, leurs cassures, leurs déceptions. Et pour leurs enfants, ils n'incarnent pas un autre solide et consistant, mais plutôt des personnes qui les accompagnent sans rien pouvoir leur donner. C'est donc, à ce titre, un roman du XXIe siècle où chacun jouit de son côté sans se préoccuper de ce qu'il adviendra le lendemain. Cette jouissance est sans limite parce qu'il n'y a ni interdit ni peur de la transgression. C'est une jouissance qui n'est pas créative ni productrice comme elle pouvait l'être chez les surréalistes. Là, on boit, on se drogue, on s'éclate sans but. Et c'est ce qui donne une tonalité dépressive aux personnages qui sont revenus de tout. Même la lecture de Mein Kampf, d'Hitler, est montée en dérision, ce qui montre à quel point les points d'appui symboliques sont eux aussi déchirés, dénudés, vidés de leur impact. Voilà.